Et cela ouvre directement la partie questions-réponses. Une partie où je vous demande d'éteindre vos portables ou de les mettre silencieux. Tout à l'heure, quelqu'un perturbait un peu cette conférence de presse. Donc, veillez mettre vos portables sous silence. Et puis, nous allons commencer, bien entendu, par Kinshasa. Nous allons prendre deux questions. Je vais commencer par la gauche, au fond, et ensuite, on va venir à la droite. Est-ce que, oui, juste derrière vous, madame, présentez-vous. Et d'habitude, nous demandons une question, parce qu'il y a beaucoup de collègues journalistes qui voudraient, bien sûr, poser d'autres questions. Allez-y, madame.
Merci, c'est Aline Engwe pour le compte de politico.cd. J'adresse ma question à monsieur le représentant de droits de l'homme. Le bureau conjoint de droits de l'homme, dans tous ses rapports, identifie les agents et les structures de l'État comme principaux violateurs de droits humains, dont une bonne partie est liée au processus électoral. Et croyez-vous que cette tendance garantisse une bonne tenue des élections? Merci.
José Maria, réaction rapide, réponse à cette question.
Oui, très bonne question. Le but de ce rapport et les rapports qu'on a fait au mois de septembre de l'année passée, après les événements, et au mois de décembre de 2015, ils sont avec les buts d'indiquer quels sont les défis qu'il faut confronter ensemble avec les autorités pour avoir le processus électoral crédible et apaisé. Et c'est pour ça que ce rapport indique qu'il y a un usage excessif de la force, qu'il y a une restriction de la liberté de manifestation pacifique, mais qu'il y a aussi des arrestations arbitraires contre les voix dissidents. Et il faut changer tout ça. Et tout de suite, il faut mettre en place toutes les mesures de décrispation dans l'esprit de l'accord de Saint-Sylvestre pour avoir un processus électoral crédible et apaisé. Et c'est ça qui est le but du rapport. Merci.
Voilà, nous allons prendre une question sur... donner le micro, oui.
RTNT2 Développement, Laetitia Massella, Florence Marchal, nous sommes au début du mois de mars, mois dédié à la femme. Or, la grande partie des victimes de guerre, de violences sexuelles et des calamités sont de femmes. La MONUSCO dispose-t-elle d'un plan d'action efficace pour redorer l'image de la femme par la diminution de toutes ces menaces? Merci.
Merci. Merci Laetitia pour cette question qui anticipe l'invité spécial de la semaine prochaine qui sera la représentante d'ONU Femmes. Donc je pense qu'elle sera plus à même de répondre à cette question. Mais j'ai envie de dire que tous les jours, c'est la journée de la femme et le mois de la femme pour les Nations Unies, parce qu'évidemment, dans tous nos programmes, nous veillons à ce que les personnes les plus vulnérables, et souvent ce sont les enfants et les femmes, la représentante du HCR nous l'a dit, 80% des réfugiés du Soudan du Sud sont des femmes et des enfants, donc évidemment, une attention particulière est accordée aux femmes. Mais rendez-vous donc la semaine prochaine, où la représentante d'ONU Femmes sera l'invitée de cette conférence de presse.
Merci Florence, direction Goma, pour prendre deux questions. Je rappelle que notre invitée spéciale est Madame Anne Encondre, représentante régionale du HCR. Donc Goma, s'il vous plaît, deux questions. Pas de questions à Goma? Si, une, allez-y.
Tout est partout du journal Écho d'Opinion. J'adresse ma question à M. Charles. Je ne sais pas, M. Charles, si vous n'avez pas honte peut-être de parler, de donner ce que la MONUSCO fait au niveau de la RDC, alors que le gouvernement lui-même dit que la MONUSCO est inefficace, pour ne pas utiliser d'autres mots. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez croire que la MONUSCO a encore des raisons d'être, de rester en République démocratique du Congo? Merci.
En tant que journaliste, vous savez très bien que la MONUSCO, qui est donc la mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC, a été créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Conseil de sécurité, bien sûr, a eu l'aval de l'Assemblée générale pour envoyer cette mission ici en RDC. depuis bientôt une quinzaine d'années, 17 ans en gros. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup reste à faire, mais il ne faut pas ignorer tout le travail qui a été fait depuis le début. Nous le rappelons souvent, la RDC était un pays divisé en trois, avec des groupes armés qui dirigeaient certains pans du territoire de la RDC. Grâce à l'effort conjugué, j'allais dire, et du gouvernement central à Kinshasa, et des Nations Unies, et de la communauté internationale, aujourd'hui, nous avons un pays unifié qui a déjà organisé deux élections, qui se prépare à en organiser une troisième. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, et je tiens à le dire, les uns et les autres peuvent avoir leur appréciation de ce fait. Nous savons qu'effectivement, au niveau de la SADC, il y a eu ces déclarations que vous nous répétez. N'oubliez pas que la brigade d'intervention des Nations Unies, de la MONUSCO par exemple, ce sont les membres de la SADC qui font partie de cette brigade d'intervention de la MONUSCO, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi. Donc voilà, nous savons que tout n'est pas parfait, beaucoup reste à faire. Nous sommes sur le front en collaboration et en coopération étroite avec les forces de sécurité donc de ce pays. Et nous tenons à dire que le mandat de protection des civils qui nous a été confié va être exécuté malgré les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Voilà ce que je pouvais dire en guise de réponse. Nous restons donc à Goma pour une autre question. Pas de question à Goma? On n'entend rien, le son ne passe pas, donc on revient directement ici à Kinshasa où il y a plutôt beaucoup de mains. Nous allons prendre une... Oui, il y a beaucoup de RTNC2, hein. Nous venons de passer le micro à RTNC2, il faudrait démocratiser un peu le micro. Hein. Vous êtes aussi RTNC2?
Non, je ne suis pas RTNC.
Okay.
Malheureusement, je ne suis pas de RTNC.
Allez-y là.
Voilà, merci Théodore Ngandou pour les comptes de Télé7. Monsieur Charles, vous avez tous suivi la signature le 31 décembre 2016 de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord qui a été salué des vives voix par la communauté nationale et internationale. Aujourd'hui, l'espoir est en train de partir dans le chef des Congolais parce que cet accord peine à être appliqué. Est-ce à l'instar de l'Union européenne, des États-Unis qui ont infligé des sanctions ciblées sur les acteurs politiques congolais qui ont bloqué peut-être le processus démocratique? Est-ce que le Conseil de sécurité va-t-il aussi envisager des sanctions par rapport au blocage de l'application de l'accord?
Je ne représente pas malheureusement le Conseil de sécurité, mais plutôt la MONUSCO, même s'il y a, c'est vrai, quelques liens. Non, moi je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. Cet accord de la Saint-Sylvestre a été signé, il y a des difficultés dans toute revue humaine. Il y a généralement pas mal de difficultés qu'il faut surmonter. Les évêques de la CENCO, qui sont les médiateurs, sont sur le front. Ils n'ont pas jeté l'éponge. Au contraire, ils ont lancé récemment d'ailleurs un appel à la population congolaise pour qu'elle reprenne espoir. Je crois qu'il faut continuer à espérer. Tant que il y a les gens se parlent, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, tant que il y a encore des passerelles de dialogue, il y a encore des contacts qui se nouent, je crois que c'est des bons signes, c'est des signaux qu'il ne faut pas négliger. Moi, je crois que à l'issue de ces rencontres, de ces contacts-là, quelque chose peut sortir. En tout cas, la lettre distribuée par la CENCO récemment a été un signal fort que les gens ont bien reçu. Nous espérons que ce signal sera entendu parce que ça, il y avait non seulement des messages forts pour la majorité et l'opposition, pour la présidence, pour la société civile, etc. Il faut que ce genre de message soit entendu. C'est ce que la MONUSCO, à travers les bons offices du représentant spécial que nous poursuivons d'ailleurs, c'est ce que nous faisons pour rassembler tout le monde autour d'un même appel, sursaut politique afin de pouvoir continuer donc aller vers ces élections qui sont attendues vers fin 2017. Voilà un peu ce que je veux dire, un appel donc d'espoir également de la part des Nations Unies pour que ces élections puissent avoir lieu malgré les difficultés présentes. Nous allons rester ici pour prendre peut-être où est le micro, peut-être qu'on peut avancer vers la porte, il y a beaucoup de mains ici. Bon, à la dame derrière vous, présentez-vous et une question.
Merci. C'est Elvira Ponzo pour le compte de la radio-télévision à Louange. J'adresse ma question à M. Charles-Antoine Bambara. Le ministre des Affaires étrangères de la SADC, qui se sont réunis le 24 février dernier, ont qualifié l'action de la MONUSCO d'inefficace. Selon cette organisation internationale sur-régionale, la MONUSCO a échoué à éradiquer les forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette déclaration?
La réponse a été déjà donnée, madame. Donc, on passe à une autre question. Ah oui, oui, c'est juste deux questions avant. Allez, donnez le micro.
Bonsoir. Elisabeth Sterov, je travaille pour RFI. La première question, la famille d'Étienne Tshisekedi a sollicité la MONUSCO pour sécuriser le convoi lors du retour de sa dépouille mortelle le 11 mars. Est-ce que c'est une demande à laquelle la MONUSCO compte accéder? Et puis à José Maria Arañaz, je voulais savoir, est-ce que vous avez des éléments sur l'enquête que les autorités disent avoir ouverte sur les violences à Kananga? Qu'en est-il de l'enquête du gouvernement? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et qu'en est-il de la possibilité d'envoyer une commission internationale d'investigation qui partirait de Genève? Est-ce que cette question est en cours d'examen à Genève?
Merci. C'est une question en trois volets, hein. Ça fait beaucoup. Quatre volets, on dit. Bon, d'abord, la première partie de la question sur la requête de la famille Tshisekedi, je vais remettre exactement, parce que nous avons reçu la lettre, effectivement. La famille Tshisekedi sollicite en réalité l'implication des éléments de la MONUSCO aux côtés des combattants de l'EPS et de la police nationale. C'est vrai que dans ce genre de cérémonie officielle, j'allais dire nationale, les premiers responsables pour la sécurité sont les forces de sécurité nationale, mais c'est vrai que la MONUSCO, conformément d'ailleurs à son mandat, va conseiller, appuyer les services de sécurité nationale pour que cette cérémonie, ou ces cérémonies autour donc des funérailles de ce grand leader congolais qu'est Étienne Tshisekedi, puisse se passer sereinement et dans de très bonnes conditions. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau. José Maria Arañaz, pour il y a deux autres volets de questions qui vous sont adressées.
Des questions par rapport des Kassai. Voilà. La première, c'est une question de précision. Ce n'est pas Arañaz, c'est Arañaz. Il y a une petite différence à la prononciation en espagnol. Mais la question d'une possible enquête internationale. À ce moment, le chef de l'État a donné les instructions d'ouvrir les enquêtes de l'auditorat militaire. Nous sommes prêts à donner notre appui, comme toujours. Nous avons une très bonne relation avec l'auditorat militaire pour faire la lumière des événements là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt et inquiétude. Ce qui s'est passé à Kassai et la question de l'impunité et les crimes graves qu'ils ont été évoqués à Kassai. Il y a beaucoup d'inquiétudes au Conseil de sécurité et même aussi au Conseil des droits de l'homme, qui sont la prérogative et l'autorité pour commander une enquête internationale. Alors, ça dépendra de la crédibilité des enquêtes nationales qui sont en train d'être conduites. Il faut voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les développements dans le terrain. Nous ferons le monitoring de la situation et on va donner l'appui à l'auditorat militaire. Mais je pense que la réaction du Conseil des droits de l'homme ou la réaction du Conseil de sécurité, ça dépendra de quel est le bilan de l'actuation des autorités nationales.
Direction Goma. Je sais qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de questions, mais on va prendre deux questions à Goma. Je rappelle une fois de plus que l'invité spécial de cette conférence de presse est Mme Anne Enconte, qui est la représentante régionale du HCR. Je sais que les journalistes de Goma ont suivi particulièrement pas mal ces questions de réfugiés sud-soudanais et autres qui sont plutôt dans l'est de ce pays. C'est à vous pour une question, s'il vous plaît. Allez-y.
Oui, c'est Victor Bigatti pour le compte du journal Breaking Up. Je pose directement ma question à la représentante de AFCDIAC. Est-ce que, madame, saviez-vous que les déplacés de Luanga, qui sont pour le moment à Rutshuru, depuis qu'ils avaient fait le massacre à Lubero, ils sont sans assistance?
On n'a pas bien compris la question. Le micro était un peu collé à la bouche. Repoussez plutôt le micro, hein, parce que ça fait un peu des popping, comme on dit.
J'ai dit ceci.
Allez-y.
J'ai dit, je pose la question à la représentante du IACE. Est-ce que elle savait que les déplacés de Luanga qui avaient fui le massacre à Lubero, ils sont pour le moment, depuis qu'ils avaient fui, ils sont à Rutshuru sans assistance?
Sans assistance. Les déplacés de Luanga qui ont fui vers Lubero sont sans assistance. Est-ce que les collègues, vous avez des éléments de réponse ou peut-être que Andreas, qui est le chef chargé de communication, ou peut-être le porte-parole militaire d'ailleurs, parce que lui il vit là-bas directement. Serge Hag, vous avez quelques éléments de réponse ou pas? Sur les déplacés de Luanga qui ont fui vers Lubero. Pas d'éléments.
Je crois que la question d'assistance, pour ma foi, ne reviendrait pas à l'armée qui s'occupe de la gestion de la sécurité de ces éléments-là.
Tout à fait. Donc, nos collègues de Andreas du HCR va essayer de nous trouver les éléments de réponse la semaine prochaine. Nous restons à Goma pour une autre question, s'il vous plaît.
Merci pour l'information. Mm-hmm.
Allez-y. Les micros de Goma ne marchent pas très bien. Hein?
Oui, c'est Patrick Philippe Labé du pour RTVS 1 et les sites.
Bon, nous revenons ici à Kinshasa. Les micros ne marchent pas. Nous passons. Il n'y a personne au fond. Bon, allez-y, juste devant vous là. Allez-y. Exact. Merci.
Monsieur Charles, j'étais un peu surpris, vous venez tout à l'heure de dresser un bilan plutôt très très positif de la République démocratique du Congo, élections, tout ça. Je ne sais pas si nous vivons dans les mêmes pays, mais à mon avis, j'allais dire, amène dis-moi du numérique à télévision, excusez-moi. À mon avis, la situation n'est pas toujours relativement stable, comme on dit ici à la MONUSCO. La situation, à mon humble avis, est plutôt grave. Est-ce que le problème, c'est que la MONUSCO, ce qu'elle a à faire, n'est pas trop par hasard? Est-ce qu'il ne reste pas trop à faire? Je vous pose une question. Si vous faut coter ce que vous avez déjà fait jusque-là, vous vous donnerez quelle cote, M. Charles Barbara? Merci.
C'est à vous de nous donner des cotes. On n'est pas là pour s'auto-coter, si je peux dire, utiliser le terme. Non. Tout à l'heure, je ne faisais pas de bilan de la présence de la MONUSCO. Je vous donnais un aperçu de ce qui a été fait comparativement à d'où nous venons. Lorsque, vous savez très bien en tant que journaliste, la guerre a éclaté dans ce pays et c'est vrai ce que je dis, que ce pays était divisé en trois parties. Le RCD Goma qui dirigeait Goma, le MLC, la partie de Kisangani et le gouvernement central ici. On n'est plus à cette période-là. Le pays a été réunifié. Tout n'est pas parfait. Nous insistons dessus. L'ADF est là, les FDLR sont là, les FRPI sont là, d'autres groupes armés sont là. Mais nous continuons à collaborer avec les FRDC, les forces de sécurité, pour vraiment mettre en œuvre ce mandat de protection des civils que nous avons, pour mettre en œuvre ce mandat de sécurisation des lieux et des personnes que nous avons. Et c'est vrai que c'est pas une tâche facile, mais j'allais dire progressivement, nous avançons avec les forces de sécurité congolaises et nous espérons et nous souhaitons mettre un terme en tout cas à tous ces groupes armés. Et c'est notre mandat, nous allons essayer de le faire de la meilleure façon possible. Nous restons ici plutôt à gauche, mais vous avez le micro, vous voulez parler toujours. Donnez le micro aux collègues de derrière. Voilà. Merci bien. Bon, non, ensuite on viendra devant. Allez-y.
Bien. Kayembe pour rtg@l'avenir.org. Une question par rapport à la situation au Kasaï. Vous la décriviez tout à l'heure comme étant précaire. En traitant la situation humanitaire pose aussi problème. Je voudrais savoir si au niveau de l'équipe pays, vous avez un plan de contingence pour venir en aide aux populations qui ont fui leurs habitations, qui se retrouvent dans la brousse ou qui vivent une situation catastrophique. Merci.
L'équipe pays va répondre, mais je peux commencer à dire qu'il y a eu cette conférence paix et réconciliation, notamment... dans la province du Tanganyika, c'est vrai, mais dans le Kasaï, est-ce que les choses avancent également de ce côté? Oui, nous avons renforcé la présence de la MONUSCO sur place et nous avons, je sais que de plus en plus les agences du système des Nations Unies essaient d'être présents également dans ces provinces du Kasaï pour apporter de l'aide aux populations qui sont confrontées à cette violence qui dure depuis 6 mois, on l'a dit de façon très précise. Cette présence de la MONUSCO est non seulement une présence civile qui augmente sur le terrain, mais également une présence militaire et policière qui s'augmente également. Nous avons, comme je l'ai dit dans la présentation, disposé même des forces dans un certain nombre de points chauds, dans 3 points chauds de cette localité du Kasaï. Et nous allons continuer à être présents de plus en plus et mettre en œuvre des stratégies en collaboration avec les autorités provinciales pour essayer de juguler donc cette violence qui dure depuis quelque temps. Est-ce que Florence, vous avez quelques éléments au niveau de l'équipe pays?
Oui, une mission d'évaluation avait été organisée de mémoire fin janvier afin d'évaluer les besoins humanitaires et les collègues de la famille humanitaire sont en train d'identifier, de voir comment concrètement une aide, une assistance humanitaire peut être apportée.
Vous savez que la section protection de l'enfance a libéré 100 d'enfants, je l'ai dit dans le verbatim tout à l'heure. Ce n'est pas rien, c'est un début, mais beaucoup de choses se font vraiment pour qu'il y ait une meilleure convivialité entre les différentes communautés dans cette province du Kasaï. Nous allons,
oui. Je peux ajouter dans ce domaine, et l'UNICEF a aussi à plusieurs reprises lancé des appels afin que cesse l'enrôlement des enfants dans tous les groupes armés et par toutes les milices.
On va prendre une question avant de réessayer Goma, parce que je crois que les micros sont peut-être fixés. Allez-y, je vois 2 mains là.
Merci, c'est Rigobert Kabongo pour le journal L'Opinion. Je pose ma question à Madame la représentante d'IHCR, parce que nous sommes en plein processus d'enrôlement. Je voulais savoir si il existe et une tripartite entre la MONUSCO, le HCR et le gouvernement en ce qui concerne en vue de faciliter l'enrôlement des réfugiés d'abord internes à l'est de la RDC. Parce que des déplacés internes, pas des réfugiés mais des déplacés internes. Et puis s'il y a un plan d'encadrement des réfugiés d'abord. Vous avez parlé des 6 Soudanais qui sont évalués à plus de 60 000 et autres Burundais, Rwandais, Tanzanais à plus de 454 700, s'il existe un plan d'encadrement de ces réfugiés externes. Merci.
Merci. Nous n'avons pas un tripartite parce que les personnes déplacées internes, ce sont des Congolais. On n'a pas besoin un encadrement spécial pour eux. Ils ont le droit, comme tous les citoyens de Congo. Mais par contre, oui, nous sommes en train d'assister tous les réfugiés avec le gouvernement et nos partenaires qui donnent assistance et protection internationale pour les réfugiés qui se trouvent en RDC. Il y a aussi les Congolais qui se trouvent 500 000 Congolais qui se trouvent en dehors du pays, qui ont aussi le droit de voter si c'est possible d'enrôler ces réfugiés en dehors du pays. Et nous sommes prêts à assister le gouvernement et MONUSCO ou qui que soit pour enrôler ces réfugiés qui voudraient voter. Merci.
Merci madame. Je vois que nos auditeurs de Radio Okapi vont nous quitter, mais nous allons continuer cette conférence de presse ici à Kinshasa avec Goma tout d'abord. Goma, j'espère que vos micros sont fixés. 2 questions, s'il vous plaît.
Voilà, merci. Je disais que c'est Patrick Félix Abeli. La question est destinée à José Maria Ranas. Vous dites que vous aviez partagé les rapports avec le gouvernement congolais, mais la voix s'élève. Marie Mouchobé quoi conteste les rapports que vous avez publiés. Pourquoi cette diversion?
Ça c'est une question habituelle, même que s'il y a une réaction publique habituelle. Nous sommes, les rapports étaient partagés pour l'action des autorités qui nous sont prêts à appuyer. Et je pense que la réaction publique, c'est une réaction politique et il faut l'entendre dans ce contexte. Ce que nous espérons, c'est une réaction en matière de l'ouverture de l'espace démocratique et de la lutte contre l'impunité et pour faire la lumière des événements et traduire en justice les responsables de la violence et des violations des droits de l'homme. Mais ça, c'est un travail qui se fait dans les réunions de travail, pas dans les conférences de presse ou dans les déclarations politiques. Merci.
Goma, une autre question ? Pas de question à Goma ?
J'ai une question. Je dis, je suis Olivier Baraka pour Micharpi Voice TV. Je m'adresse toujours à M. Aranaz et je lui demande pourquoi le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'intéresse-t-il aux événements du 19 décembre dès lors qu'on sait que le même bureau vient de publier récemment un autre rapport sur la RDC. Est-ce qu'il y a une particularité ? Quelle est la nouveauté ?
Oui, de ce rapport, alors que vous avez publié après le 19 décembre d'autres rapports.
Ah oui, comme j'ai dit, ça c'est le rapport final de l'enquête, ça c'est le rapport public avec l'information qui était confirmée, vérifiée, partagée avec les autorités, et je vous invite à consulter les rapports, pas seulement la déclaration de presse, et aussi les commentaires du gouvernement qui ont été ajoutés au rapport, et comme ça vous pouvez avoir votre propre opinion. Et toutes les déclarations qui ont été faites dans les mois de décembre ou de janvier ont été les déclarations basées dans l'enquête préliminaire. Ça, c'est l'enquête finale de notre bureau. Et c'est une enquête des droits de l'homme. Ce n'est pas une enquête judiciaire. Et on espère que ça va ouvrir la porte à une enquête judiciaire et aussi à mise en place les recommandations qui sont dans les rapports.
Merci bien, José Maria Aranaz. Une question ici à Kinshasa.
Merci pour la parole, Safran Katumba. Pour les comptes d'explorateurs, j'ai une préoccupation, Charles, à l'intention de M. le directeur Charles Bambara. La radio Capi vient de fêter tout récemment ses 15 ans d'anniversaire en RDC. Vous êtes directeur d'une publication de la revue Echo Monisco. Une chose curieuse, les journalistes n'ont pas pu assister en grand nombre. Est-ce que la Monisco et Radio Capi ont fait un refus poli? Je vous remercie.
Merci pour la question. En réalité, la salle de fête de l'hôtel Béatrice est limitée. Bon, on avait 350 invités, il fallait trier. Je n'étais pas membre du comité des invitations, mais je peux vous assurer que certains collègues journalistes ici étaient présents dans la salle. Je leur dirais pas de lever les mains, mais beaucoup ont participé. C'est vrai que tout le monde ne pouvait pas participer. Mais ce qu'on a prévu, c'est qu'on va essayer de faire, et le bureau du porte-parole l'a suggéré, une fête à l'ensemble, pour l'ensemble des autres journalistes qui n'ont pas pu participer à cette célébration, donc, des 15 ans de radio au Capi à l'hôtel Béatrice. Mais il fallait marquer d'une pierre quand même ces 15 ans-là, 15 ans au service de la nation congolaise, à travers une information impartiale et équilibrée, professionnelle, avec beaucoup d'interactions justement avec les journalistes, non seulement, c'est vrai, ici à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays. Il fallait d'une certaine façon célébrer ça. Et nous vous remercions, vous tous d'ailleurs, qui êtes d'une certaine façon les relais de l'information portée par Radio Capi. Nous savons que beaucoup de journaux de la place utilisent les informations sur le web de Radio Capi, ou permettent au moins de creuser cette information disponible sur Radio Capi online. Donc nous espérons pouvoir continuer cette collaboration avec vous dans les meilleures conditions. Et dans cette période-là, d'ailleurs, nous voulons, avec beaucoup plus d'ailleurs d'intérêt avec l'équipe pays, essayer de voir, par exemple, comment mettre l'accent sur la formation des journalistes, c'est vrai, à Kinshasa, mais ailleurs dans le pays. Donc voilà, mais on a pensé à vous tous, même ceux qui n'étaient pas là pendant cette cérémonie, et on va essayer de se rattraper. Peut-être une dernière question, peut-être allons-y au fond.
Agence de presse nouvelle Alain Waikani. J'ai une question à M. José, mais ça peut faire appel à Charles Bambara aussi. BDK, Boudoudia Congo, dit qu'il est assiégé, ça fait 2 semaines. Je vous ai vu particulièrement dans la scène de l'IDPS quand on a brûlé les gens, M. Ranas. Je ne sais pas si c'était à cause de la gravité de la situation. Mais la situation des BDK a commencé aussi par un certain nombre de chauffeurs entre la police et ces éléments va d'être assiégés. Avez-vous déjà été là? Et est-ce que les bureaux politiques de la MONUSCO, ça c'est maintenant Bambara s'il veut intervenir, a déjà fait un déplacement pour se rendre compte de la situation sur place? Merci.
Ok. Non, I'll take it. De notre côté, la réponse est oui, nous sommes là, et nous continuons à faire les suivis et les monitoring pour éviter la violence et pour aider à avoir une solution pacifique. Et après ça, je passe la parole à Opon.
Oui, donc en appui de ce que dit M. José Maria Aranaz, il faut savoir que la police des Nations Unies, UNPOL, est en contact avec les personnes qui sont à l'heure actuelle dans l'enceinte de la résidence du député, encerclés. Ils essaient de faire effectivement une sorte de médiation, puisque en même temps la police des Nations Unies parle à la PNC qui est sur les lieux pour qu'ils essaient de faciliter l'extraction des femmes, des enfants qui sont toujours encerclés depuis de plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas maintenant. Nous sommes présents, nous essayons vraiment de jouer notre rôle, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et que cette situation puisse se résoudre calmement. C'est ce que nous souhaitons. Le chef de la police de la MONUSCO avec lequel j'étais en contact a confirmé qu'ils étaient vraiment en contact non seulement avec les gens à l'intérieur mais avec la PNC pour essayer de trouver une solution définitive à cette situation-là. Voilà, fin de cette conférence de presse. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine et merci à tous nos invités.